Jean Lafortune est comédien, animateur de télévision. On l'a vu à l'école des fans, au Cercle, à la classe de 5e, à La Voix, bien sûr, qui recommence cette année. Il est le conjoint de la comédienne Sophie Préjean et c'est quelqu'un de célèbre et c'est de ça dont j'avais envie de m'entretenir avec lui, Charles Lafortune. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Je vais commencer par une définition parce que on a chacun la nôtre, mais toi, ta définition de la célébrité, ce serait quoi?
Pour moi, la célébrité, c'est que le quand on parle du village global,
ouais.
Ben moi je vis le village provincial.
Okay.
Donc pour moi, quand je me promène dans le Québec francophone, mais même anglophone maintenant, puis on pourrait revenir plus tard, j'ai un rapport qui est un rapport villageois avec les gens. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois j'allais au magasin général. Fait que je sois à Chicoutimi, que je sois à Rivière-du-Loup, que je me promène puis que je rentre quelque part et puis j'ai un regard sur moi qui est un regard de celui qu'on connaît.
Ouais, ouais, ouais.
Puis moi j'ai étant donné que je suis là j'ai recommencé à être comédien mais que les gens me connaissent surtout comme animateur.
Oui.
Un animateur c'est différent d'un acteur. Par exemple, je te dirais que dans mon bureau un article de Stéphane Laporte qui avait écrit sur la hauteur de la télévision qu'il faisait installer chez lui. Puis lui il disait les vedettes de cinéma, normalement un cinéma maison, on met l'écran un petit peu plus haut. Parce que les vedettes, les stars de cinéma, on les regarde d'en bas, puis on regarde vers les étoiles. Mais il dit, les animateurs, les animatrices, ce sont nos amis, on a un rapport de proximité avec eux. Fait qu'il dit, moi, j'écoute, dans l'article, j'écoute plus souvent le Cercle que du cinéma. Fait qu'il dit, j'ai besoin des animateurs, on dirait qu'on a besoin de les avoir en face, à la même hauteur que nous, parce que ce sont des gens qui nous accompagnent des fois dans nos moments de solitude. On ouvre la télé, on s'assoit, on mange, on regarde un jeu, etc. Fait qu'il y a ce rapport de proximité là qui est là. Fait que moi mon rapport avec la célébrité, c'est un rapport où les gens ont toujours une impression de me connaître,
ouais.
Une impression du voisin, du beau-frère, de l'ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puis ils ont un rapport aussi de proximité avec moi. Moi, si on est ensemble puis on va voir un match du Canadien au Centre Bell, les gens ils vont me toucher physiquement.
Ah oui?
Ouais, ils vont s'approcher, puis parce que je mesure 6 pieds 3, puis je pèse 225 livres, ça c'est dans une bonne semaine, ben, ils vont vraiment arriver, puis me frapper dans le dos, puis m'appeler Charles, puis donc il y a un rapport de proximité qui est là.
Es-tu capable de situer quand est-ce que ça a commencé? Parce que se faire reconnaître, c'est une chose. Se faire toucher, t'as raison, c'est vraiment autre chose. Puis ça a dû commencer à un moment donné.
Moi, bizarrement, ça a commencé assez rapidement.
Oui.
Quand j'ai fini l'école, j'ai été le conservatoire, j'ai été une année où j'ai fait du théâtre. J'ai joué dans des Fédo, j'ai fait un spectacle pour enfants. Puis je me suis mis à jouer dans Watatata à Radio-Canada à l'époque. Et puis, c'était très drôle parce que ce show-là, il frôlait presque le million à cette époque-là. Et puis, les gens du milieu te connaissaient moins, mais le grand public, qui n'écoutait pas à cette époque-là Oprah Winfrey ou, je sais pas, Wheel of Fortune sur un quiz américain ou un soap, se retrouvait à regarder ça. Même que dans l'émission, au début, c'était seulement la perception des adolescents, puis ils ont rapidement changé parce que des fois que je joue, puis ils sont aperçus que ce qu'on appelle le 2+, les gens qui arrivaient à la maison s'assoyaient puis écoutaient ça. Fait qu'on enlevait, si vous écoutez des vieux épisodes de Watatata, les premiers, on entendait oi, 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 puis des Watatata. La troisième année, il n'y en a plus.
Mm-hmm.
C'est carrément pareil comme Marilyn à l'époque.
Oui.
Puis moi, je me faisais... Alors donc, j'étais en tournée de théâtre. Puis j'étais en Abitibi. Puis quand tu joues au théâtre pour enfants, tu joues l'après-midi. Fait que le soir, tu joues au pool puis tu bois de la bière. Surtout quand t'as 26 ans. Et puis, je m'étais fait reconnaître. Là, puis alors, le monde m'appelait Guy, parce que mon personnage s'appelait Guy.
Oui, oui.
Puis moi, j'ai des amis qui m'ont souvent dit, tu sais, à l'époque, ben tu vas voir, la télé, ben qu'est-ce que tu veux, c'est une loupe incroyable. Fait que ça change ta vie. En tout cas, ça change le rapport que tu as avec les autres. Mais il y a un moment donné où est-ce que, c'est ça, les gens connaissent ton personnage, puis ce qui est difficile, c'est quand les gens ils connaissent ton nom. Alors le moment où ils font la passation à hey oui c'est lui qui joue Séraphin.
Mm-hmm.
Là dans les pays d'en haut, là, on va voir ça là. C'est lui qui joue Séraphin. Puis quand les gens vont savoir exactement son nom, ben là c'est ça. Là c'est la célébrité.
OK, c'est passé de connu à célèbre.
À célèbre. Je pense que quand les gens peuvent te nommer, peuvent montrer. Moi j'avais été très étonné pour un sondage que j'avais fait avec l'émission de Véronique Cloutier, 95% des gens pouvaient me nommer.
C'est énorme
parce que je pense que à cette époque-là, il y a le même
sondage.
C'était avant la voix. Mais je pense que Jean Charest était comme à 89%. Mais tu sais, lui, il y a une clip des nouvelles, puis c'est toujours la meilleure. Mais... Et nous, on est là une demi-heure, puis tous les jours, puis on n'augmente pas les impôts, fait qu'on est plus sympathique.
Quel avantage ça a d'être célèbre?
Ah, il y a plein d'avantages. Souvent, tu vas quelque part, les gens sont de bonne humeur de te rencontrer. T'as un service que les autres ont pas nécessairement. C'est vrai. Tu sais, oui, moi je vois quand j'appelle quelque part, je suis samedi, puis 5h15, puis je vais aller manger au restaurant, puis à 7h, c'est sûr que je vais bien articuler mon nom.
Oui.
Avant de me rendre à la réservation, je vais dire mon nom avant. Fait que je vais. Puis c'est ça arrive. Fait que les avantages. Je dirais aussi, il y a l'avantage que oui, les gens sont de bonne humeur. T'es une espèce de surprise dans leur journée. T'arrives quelque part, puis ils se lèvent la tête, puis ils te voient, puis ils disent « Ah, monsieur Pierre Brassard, non, j'en ai pas ça. » Mais tu sais, il y a ça qui est toujours différent. Par exemple, je vais toujours me souvenir de quand je faisais l'école des fans, où je faisais chanter des petits-enfants, puis on avait des chanteurs qui venaient, ou des chanteuses. Puis j'avais quelqu'un qui était venu à l'émission, puis ma chef d'orchestre, elle avait dit « Ah non, pas cette personne-là. Ah, elle bête comme ses pieds avec les enfants, ça sera pas évident. » Puis je disais « Ben non, moi je l'ai rencontré, il était super sympathique. » Puis là, elle m'avait dit quelque chose que j'oublierai jamais, puis elle m'avait dit « Oui, avec toi. »
Ah oui.
Donc c'est ça. Donc des fois, ça fausse la donne aussi. La célébrité, ça change les perceptions.
C'est bon pour l'ego aussi. Un jour où on se sent moyen, là, puis qu'on se fait reconnaître ou qu'on a un meilleur service ou qu'on on suscite un sourire, c'est bon pour l'ego aussi d'être célèbre.
Oui, c'est bon pour l'ego, mais pas sur Google. Moi je dirais quelqu'un, si t'as la tête enflée, là, puis t'es un moindrement célèbre, tape ton nom sur Google, ça va te ramener les deux pieds sur terre. Parce que généralement, les gens qui émettent des commentaires ou commentent des articles dans les journaux, etc., c'est rarement pour dire quelque chose de positif. T'sais, on a le chialage beaucoup plus rapide. Même sur les médias sociaux, je dirais que 85% des commentaires sont là pour chialer ou donner son opinion.
Oui.
En fait, pour répéter l'opinion de quelqu'un d'autre qu'on a lu quelque part en disant que c'est la sienne. Mais fait que oui, ça flatte l'ego. Mais moi, j'ai pas un ego démesuré, par exemple. Je pense pas, non. Patrice Écuyer m'avait déjà dit, quand je commençais, il m'avait dit, c'est merveilleux être animateur, tu sais, parce que, en tout cas, la chose qu'il faut absolument faire, c'est être soi-même. Puis, parce que à la longue durée, tu seras pas capable d'être quelqu'un d'autre. Le monde, ils vont le voir, puis ils vont le sentir.
Ouais.
Fait que si les gens, ils t'aiment. S'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas toi.
Mm-hmm.
Fait que c'est le pari qu'il faut que tu prennes. Mm. Fait que c'est ça.
On a parlé des avantages. Les désavantages d'être célèbre, quels sont-ils?
Quand un jeune enfant, tu vas magasiner, il y a quelqu'un qui s'approche de toi et qui fait bonjour, là, puis qui te serre la main.
Oui.
Donc, il éternue, qui touche ton enfant, les gens envahissent ta bulle. Il y a des gens des fois qui voudraient, qui sont célèbres, des fois que je connais, puis qui aiment pas que les gens les regardent d'une certaine façon, tu sais. Puis moi, je me dis, ben là, tu peux quand même pas contrôler comment les gens vont te regarder puis exiger un modus operandi de l'approche qu'ils doivent avoir avec toi. Fait que c'est sûr que c'est sûr que tu peux pas te cacher là, c'est, à moins d'aller à l'ouest de la rue Saint-Laurent là. Encore là, mais tu peux pas te cacher. Mm. Moi, je travaillais à un moment donné à la radio avec avec Mario Tremblay, qui avait, tu sais, qui a joué pour Canadien de Montréal à 18 ans. Fait qu'il était là, lui, puis il a gagné des coupes cette année, puis bon, il a su c'était quoi. Et Mario, fait, j'ai fait ça de lui. Si y a quelqu'un, il croise quelqu'un, puis quelqu'un fait un double take, puis il voit Mario Tremblay, ouais. Fait, c'est Mario Tremblay. Dès qu'il sent que la personne l'a reconnu, il va lui dire bonjour, comment ça va, avant que la personne ait ouvert la bouche.
Ah, c'est bon, ça.
Il rentre tout le temps dedans. Il attend pas un malaise, la personne a m'a-tu reconnu. Il dit au pire, elle m'a pas reconnu, mais au moins, je lui ai dit bonjour.
C'est vrai, ça.
Elle m'a dit, coudonc, c'est qui, c'est un gars qui m'a dit bonjour, quelqu'un va finir par y dire. Fait que moi, j'ai toujours retenu ça. Fait qu'il y a pas de malaise, il y a pas de, la personne, c'est généralement, tu sais, le genre, elle veut me parler, puis elle sait pas quoi me dire.
Ouais.
Puis, tu sais, quelqu'un, j'étais en vacances, puis elle arrive à côté de moi, puis elle dit, qu'est-ce que vous faites ici?
Oui. Mais t'es très disponible à ça.
Ouais.
T'attends à te faire reconnaître et t'es très disponible.
Ah, moi, je suis complètement...
T'es pas du genre à rembarrer le monde ou à t'enfermer dans ta bulle et ne parler pas?
Non, vraiment pas. Non.
Pourquoi? Parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui vivent...
Moi, je me dis toujours que si j'étais...
bizarrement, leur célébrité et qui refusent ce contact-là.
Ouais, mais... Moi, je me dis si j'étais... Si j'étais à New York, je serais une vedette du câble. Je serais pas vraiment célèbre, je serais une vedette du câble, tu sais. Il y a 6 millions de francophones, 8 millions de population au Québec. Mm. Tu sais, 25 millions à New York avec les banlieues, puis c'était une vedette locale. T'es une B-list aux États-Unis qui appelle.
Ouais.
Fait que, tu sais, bof, j'ai la célébrité est bien relative. J'ai un associé, j'ai mon associé Nicolas Merola chez Pixcom, puis on produit des shows en anglais, tu sais, puis je vais à Discovery à Toronto, puis je me trouve dans les bureaux de CTV, puis là il me présente, puis là il dit so this is Charles Lafortune and he's a big celebrity in French Canada. Puis là c'est drôle parce que maintenant ces gens-là en télé, la plupart les décideurs, ils connaissent eux autres le phénomène de la voix.
Ouais.
Alors là ça c'est bizarre parce que ils ont un rapport très américain avec ça, même si on est au Canada anglais. Fait que pour eux autres, c'est comme, je suis une big star. Eux autres, c'est là, 2,7 millions, 60 parts de marché, 59 parts de marché dans le monde. Eux autres, là, ils envient ça. T'sais. Oui. Amazing Race Canada, ça fait 3,5 millions, puis ils capotent. Là, t'sais.
Oui.
T'sais, George Trumpulopoulos, il faisait the Hour avec son gros fauteuil rouge.
Oui.
Coast to Coast au Canada, il faisait 800 000 de code d'écoute. Ça, c'est un petit peu plus qu'un souper presque parfait sur V. Là, t'sais. Fait que nous, on est dans un univers aussi. T'sais. On parle de la célébrité, mais il y a dans le village gaulois, qui est le Québec, c'est fort la célébrité parce que je pense que c'est un port d'attache culturel aussi important dans lequel on se reconnaît à travers qui on a une identité qui nous est propre, tu sais, autant dans la pop culture, tu sais, on est toujours les premiers à dire, tu sais, nous on fait la meilleure télévision au monde, puis nous on est donc bon, puis on est donc créatif, puis on est donc différent, mais puis je pense que c'est un réflexe aussi de survie aussi de tu sais, parce que c'est pas vrai qu'on est, tu sais, les Beatles en Angleterre, ils sont pas pires créatifs aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ils sont créatifs. Tu sais, aux Pays-Bas, ils sont très créatifs. La majorité de la télé qu'on regarde, elle vient de là. En Israël, ils sont très créatifs aussi. Homeland, c'est une série de là-bas, ils sont très créatifs aussi. Mais je pense qu'il y a ce réflexe là qui est là. Fait que cette célébrité là, je pense qu'elle a fait partie de ça. Mais nous, ici, il n'y a pas de paparazzi, là. Il n'y a pas de monde qui déchire le linge.
C'est vrai,
ça se vit
différemment, même aux États-Unis, mais même qu'en France, c'est très, très différent. On a relativement la paix.
Mmh.
Et tu vis bien avec ça?
Oui, tu sais, il y a eu quelques essais. Des fois, il y a du monde qui ont essayé de faire des trucs, là, sur Twitter, là, des spotted de ce monde.
Oui,
puis ils ont essayé, mais ça lève pas vraiment.
Pourquoi?
Tu sais. Je sais pas s'il y a comme quelque chose de... Je sais pas si c'est judéo-chrétien ou... Il y a quelque chose de du girl next door. Il y a quelque chose de très familier, de rassurant, tu sais. Tu sais, nous, notre plus grande star...
On revient à ce que tu racontais tout à l'heure.
Ouais, tu sais, Céline Dion couche dans un tiroir. tu sais, on est le vilain petit canard, nous autres, là. On est, qui devient un cygne, tu sais, parce qu'on est, pas supposé réussir, parce qu'on est, tu sais, il y a 20 ans, t'avais une vedette américaine qui venait sur l'Écuyer, ou ben non, qui venait sur le, au point J, puis là, on capotait, là, tu sais. Bryan Adams est arrivé là, puis là, Mac Dupré est venu le limiter à coup. Phil Collins est venu, Mac Dupré est venu le limiter, puis là, avec lui, puis là, on était, tu sais, c'était très starstruck. Puis, mais je pense que on a eu accès à la célébrité mondiale avec Céline, avec le Cirque du Soleil, avec Robert Lepage. Mm-hmm. On a eu accès à ça, mais elle demeure ici une célébrité de proximité. Tu sais, Véro, c'est la girl next door.
C'est vrai. Ouais.
Julie, son Pierre-Carl, depuis qu'il est en politique. Elle le faisait déjà, mais elle a cette conscience-là aussi de la proximité qui est très importante. Fait que, puis généralement, tu sais, la phrase « il se prend pour un autre »,
oui.
On n'aime pas ça ici. « Il se prend pour un autre », tu sais. Mm-hmm. Eugénie Bouchard, là.
Ah, c'est vrai.
Tu sais, Eugénie Bouchard, c'est le plus bel exemple, là. Tu sais, les gens qui disaient « mon Dieu, qu'elle se prend pour une autre », elle fait des selfies sur le bord d'une piscine. Je pense que c'était sexiste parce qu'un gars a fait des selfies sur le bord d'une piscine. Puis Meyer Shraouni, je ferais des selfies sur le bord d'une piscine. C'est personne, tout le monde s'en foutrait, tu sais. Mais elle, parce qu'elle est en bikini, il y a quelque chose de sexiste autour de ça. Fait que, puis donc on voudrait donc qu'elle dise, tu sais, qu'elle est contente d'être là, puis qu'elle est déjà contente d'être sixième au monde, puis tu sais. Mais de dire, moi, je vais être numéro un, je vais être, il y a quelque chose. Mais ça va avec notre rapport avec la, tu sais, le rapport à la célébrité, il est le même un peu qu'on a avec l'argent, qu'on a avec la réussite, avec on veut que ça, on veut pas trop le savoir.
Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cool dans la célébrité au Québec, ça se vit bien, cette relation de village dont tu parlais tout à l'heure. Mais est-ce que néanmoins on est conscient de son image? Est-ce qu'on fait attention quand même? Est-ce qu'on
on fait attention à son image corporelle. Moi, je suis comme écoute, moi, je prends du poids en regardant tes tangerines qui sont sur la table de Clémentine, pardon. Je vais faire attention à ça. Moi, je suis toujours à devenir un animateur, c'est savoir ce que c'est être une fille. Puis je dis, ça là, vraiment, ça peut sonner sexiste là, mais il y a cette espèce de conscience là. Mais de toute façon, je pense que c'est devenu dans la norme là, que les gars aussi. Je pense que les filles aussi se sont tannées. D'autres, on n'est pas obligé de supporter tout puis d'aimer vos personnalités. Vous pouvez faire attention à vous autres. Mais oui, on a cette conscience là.
Mais alors, tu te croches un samedi matin pour aller acheter
du lait
à l'épicerie?
Oui. Moi, c'est plus la balance. Non, là, je suis pas tellement... Je me mets pas du fond de teint, puis je me pas... Non. Mais tu sais, j'étais un gars, hein. Tu sais, un gars, Marie-France, nous autres, on se met un T-shirt, une chemise, une paire de jeans, on se met un veston avec une pochette, on arrive au bureau, toutes les femmes vont nous dire, mon Dieu, t'es donc bien habillé chic.
C'est vrai.
Puis là, tu fais, maintenant, t'enlèves le veston, puis tu dis, gars, il reste rien. Vous autres, c'est compliqué. Je fais pas de virer à New York, moi, pour aller magasiner.
Mais est-ce qu'on fait attention à comment on se comporte, à ce qu'on dit, est-ce qu'on fait attention en général? Est-ce qu'on a une image à défendre? Est-ce qu'on a une image à orienter, à réorienter quand on est célèbre comme tu l'es?
C'est pas aussi stratégique que ça, tu sais. C'est pas. Mais j'ai déjà envoyé chier quelqu'un dans un magasin, puis j'étais aux États-Unis, puis quand je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Tu sais, mon fils avait crié.
Ah oui.
Avait crié, puis là, je m'excusais à la dame, puis j'avais dit, tu sais, I'm really sorry, my son's autistic. Puis là, elle m'avait dit, well, I don't care, can he behave, tu sais. Puis là, j'ai dit, madame, fuck you. Puis ça m'avait fait du bien. Puis j'avais comme, ah oui, je m'avais dit. Puis là, elle me regardait, puis elle était comme partie. Mais ça m'avait fait, j'ai fait, ah oui, c'est vrai que je peux pas faire ça, tu sais. Puis il y a quelque chose
ça, tu peux pas le faire ici.
Non, tu sais. À m'est arrivé de faire, tu sais, quelqu'un qui me coupe à ce prix, puis qui me regarde, puis faire un finger, puis la personne, elle vient m'en faire un aussi, puis elle me reconnaît.
Ah oui.
puis là, je me dis, bon, ça y est, elle va écrire ça. Mais, ouais, mettons qu'on est peut-être plus poli, mais ça devient une seconde nature, fait que Fait que, mais j'ai pas, non, j'ai pas trop de conscience de...
T'es une vedette TVA, et TVA, ouais, a vraiment, il y a un côté corporatiste, il y a un côté vraiment, on soigne notre image de marque. Est-ce que tu sens cette pression-là, même de manière non dite? Tu fais partie de l'écurie TVA, donc il y a une manière de se comporter, il y a une manière d'être amicale avec le monde, d'être vraiment
le grand frère. J'ai déjà eu cette discussion-là... avec Marc Cassivi. Puis Marc, il disait... Fait que donc, il y a une manière TVA, il y a une façon TVA. Puis moi, je disais non. Ce que tu penses être une manière, là, c'est moi. C'est pas... TVA, ils me disent pas quoi faire. Mm-hmm. Ils engagent les personnes qui croient être dans la marque ou dans ce qu'ils veulent véhiculer comme image, comme ce qu'ils
tout croient, comme Radio-Canada aussi.
Croient être. Oui, mais...
En tout cas, la radio, ben, oui, je te le dirais, ouais, la radio, oui.
Ouais,
oui,
c'est
oui.
Ça. Fait que tu sais, par exemple, mettons le gala artiste, t'animes okay. Le gala artiste. Dans la vraie vie, t'animes le gala artiste, tu pars, t'engages un producteur contenu, un metteur en scène, un script éditeur, trois scripteurs, t'as un bureau, puis tu t'enfermes là-dedans, puis tu pars. Un moment donné, en milieu, ils viennent te voir, ils regardent sur le mur, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le line-up du show, puis ils disent ça va être quoi, puis là, tu leur fais un pitch. Ben, juste, ça va être ça. Ah, mais ça, je comprends pas. Ah oui. Mais ça, me semble, on a déjà fait ça souvent, là, les affaires publiques, faire des contrats emploi, puis les mettre sur une zambonie, c'est plus drôle. Là. Pouvez-vous faire quelque chose? Peut-être qu'ils ont de faire quelque chose de straight où vous allez les rencontrer, puis jaser pour vrai d'informations, il s'est passé plein d'affaires dans l'année. Ah, OK. On part, puis après ça, on arrive à général. Puis si c'est bon, ben il te réengage. Puis si c'est pas bon, ben tu le fais pas l'année après. Tu sais, il y a pas de. Moi, j'ai tout le temps, tu sais, le monde quand il t'engage, pas. Ceux qui sont des bons gestionnaires, ils t'engagent pas pour te dire quoi faire. Ils t'engagent pour que tu le fasses, puis que les autres ils fassent d'autres choses mm-hmm. dans ce temps-là. Tu sais, quand t'engages du monde dans ton bureau, tu veux pas être à côté d'eux autres puis à dire au réalisateur comment réaliser, à la régisseuse comment travailler, à tes recherchistes comment. Tu sais, m'amener, faut que tu laisses les gens s'épanouir. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a pas de. T'arrives pas là avec une passe et puis ton code de vie. Il y a pas de code de vie à TVA. Il y en a pas. Puis bizarrement, ben là, c'est souvent ces vedettes-là. Je dirais par exemple que TVA est une pépinière importante. Là. Puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, tu sais, France Baudouin vient de là, mm-hmm. Ricardo ouais. vient de là. Tu sais, nomme-en là, ah, on ouais. peut. C'est une machine parce qu'elle a une antenne, elle a des revues, elle a, mm. tu sais, c'est une des premières qui a réussi à tout faire ça, tu sais. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des émissions de télévision puis qui ont ensuite des revues, Marie-France.
Effectivement. Je reviens à ton anecdote de New York tout à l'heure. Ouais. Où t'as envoyé littéralement chier une madame qui n'avait pas été fine avec ton fils. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, j'aimerais tellement ça, pouvoir avoir comme juste cette espèce de marge de manœuvre qui fait que le bad boy en moi peut s'exprimer? Est-ce que ça arrive?
Non. Non, ça m'arrive pas parce que si je veux le faire, je vais en voyage.
Ok. Est-ce que tu choisis tes destinations en fonction de pas trop de Québécois?
Oui, ça oui par exemple. Si j'ai un condo en Floride, je suis assez loin de l'aéroport pour faire assez de route pour que un moment donné je marche puis là je vois qu'il y a des mm-hmm. Québécois qui me reconnaissent. Une anecdote vraiment très drôle. Je m'en vais au MIP. Au marché de la télévision à Cannes.
Oui.
Ça se passe à l'automne. Nous, chez Pixcom, on fait aussi des shows pour Discovery, comme j'ai dit tantôt, en anglais. Donc, il y a une fille qui vient d'arriver, qui travaille au bureau, chez nous, à Montréal. Puis elle vient de Toronto, elle me connaît pas. Puis Nicolas, elle arrête pas. Hey, it's my associate is very known. Elle a, oui, OK. Nous, on est à Cannes. Puis Sophie, ma blonde, vient avec moi. Là, on est en avant du palais et je suis là avec elle, on arrête et il y a un autobus de Québécois qui marche et qui s'en viennent. Puis là, ils s'attroupent, tu sais, ils sont à peu près 80, là. Non, j'exagère, peut-être 60, un gros autobus. Ils s'attroupent autour de nous et là, ils prennent des photos, etc. Puis là, ils nous demandent de signer des affaires. Et elle s'en vient puis je la vois marcher au loin puis elle me voit. entouré de tout ce monde-là, puis t'es en avant du palais à Cannes, et là, t'as tout le monde, tu sais, c'est un marché, fait que tout le monde a leur carte dans le cou, puis s'en vont voir, tu sais, la télévision espagnole, américaine, Fremantle, tout le monde est là. Et là, il y a le monde qui passe avec leur carte devant nous, puis là, il y a un attroupement, puis quand tu vas à Cannes, pour les gens sur la croisette, là, les hôtels, ben, il y a les gros shows, là, tu sais, les Dexter de ce monde, il y a des grosses affiches, puis donc il y a des vedettes qui viennent sur le marché pour essayer de vendre des séries, etc. Fait qu'il y a plein de monde du marché qui marche et qui s'arrête. Des Allemands, des Japonais, parce qu'ils se disent, suis-tu en train de rater quelque chose? Suis-tu en train de rater le nouveau show d'HBO, puis les vedettes qui sont là? Et là, j'ai du monde qui sont pas des Québécois, qui sont comme dans le quatrième couronne nord de l'attroupement. Puis là, qui sortent leur téléphone et qui nous prennent en photo en se disant, Christy, m'a Shazamé, m'a trouvé Shazam Picture, puis m'a trouvé c'est qui ce gars-là, cette fille-là. Fait que c'était vraiment très drôle. Et elle, après ça, puis là, j'avais beau lui dire, non, mais c'est parce que c'était des Québécois, puis elle disait, non. On était ailleurs, en Europe, puis tout. Puis quand ils t'ont vu, non. T'es une star. Puis nous autres, on dit pas ça. Au Québec, on dirait pas ça, tu sais, de quelqu'un. Ouais. On va dire, c'est une vedette. On va dire, mais une inconnue, star inconnue, là. Ça, c'est un mot-là, là, pour elle, c'était important, là. Puis à la limite, j'en son ton, elle dit, non. Je voyais dans son œil, ça la faisait un peu suer, la fausse humilité. Mm-hmm. Je voyais qu'elle disait là, OK, arrête, man, de décrocher. Il y avait du monde là. Arrête de dire, tu sais, assume, là, arrête de dire que ce que je te dis, c'est une connerie, là. C'est pas une connerie, là. Il y a personne autour de moi. Puis c'était vraiment drôle de fait qu'il y a des Allemands et des Suédois en arrière qui te prennent en photo, là. C'est ça. Là, ça fait partie de ça. Je dis, oui, mais bon.
C'est assez extraordinaire comme anecdote. Mais donc, tu vas où quand tu veux vraiment échapper à la reconnaissance, à cette étincelle dans l'œil?
À Beaconsfield.
Oui, c'est différent.
Mais moi, je te dirais que la première fois que ça m'est arrivé, je suis rentré vraiment dans un dépanneur.
Oui.
Puis, je suis dans le cliché, mais c'était les Asiatiques qui étaient là. Puis, le gars, il m'a vraiment regardé, puis il a dit, « You're the guy from The Voice, right? » The French, yeah. Puis il avait sa TV dans le dépanneur, tu sais, puis il devait écouter les tunes, puis il est tombé là-dessus, puis il regardait ça. Fait que ça, c'est la première fois que j'ai fait, ah, OK. Alors que j'habitais maintenant à Montréal-Ouest, puis c'était un petit peu dans ça, celui-là. J'en ai du soir, pas le nommer, mon voisin. Puis pas grand monde qui me connaît. Tu sais, t'habites là, pis c'est vraiment au bout de la rue Sherbrooke. Tu sais, le 1er juillet, il y a une parade, là, du Canada, là. Tu sais, il y a vraiment, tu sais, on vit pas ça, pis tu vois, ah, OK, ils ont ça. Puis je me souviens que j'avais gagné personnalité de l'année au Gala Artiste avec Guylaine Tremblay. Puis j'étais en première page de la Gazette. Et là, mon voisin, Dennis, il est sorti de chez eux, pis il est un anglophone, pis il vient me voir, pis il dit, I saw you on the Gazette this morning. Je dis, oui, Denis, il dit, like, people, they know you, hein. Je dis, oui, ben oui. But you're like francophone and you're on the Gazette, so you must be really famous. Puis là, j'ai fait, ouais. Puis là, sur ma rue habitait Mitsumi Takahashi, qui fait les nouvelles à CTV. Puis là, il disait, are you as famous as Mitsumi Takahashi? Là, je dis, peut-être un peu plus dans le monde francophone que Mitsumi. Mais là, ça c'était, ouais. Puis j'avais un oncle anglophone, puis là, lui, là, on dirait que là, j'étais sur la Gazette, là, c'était comme un crossover, là. Ça, c'était comme la grosse affaire, là. J'étais dans la Gazette. Il y avait quelque chose là.
Est-ce que c'est une drogue? Si ça s'arrêtait, qu'est-ce que ça ferait?
Ça va sûrement un jour s'arrêter. Moi, je blague toujours en me disant, qu'un jour, je vais me voir dans la dernière heure. Que sont-ils devenus? Puis ma face va être là. Mais là, je dois dire que moi, depuis 2 ans maintenant, je fais de la devenu producteur exécutif en télé. Puis j'ai autant de plaisir, mais c'est un plaisir très, très différent de produire des affaires. Puis c'est pas... j'ai eu la chance de me joindre à une compagnie qui est là depuis 25 ans, Pixcom, pour pas la nommer. Puis j'ai maintenant la chance de me retrouver producteur exécutif du Code Chastenay à Télé-Québec, des Argonautes, de Flip de Fille sur Moi et compagnie, de produire Carly Max, donc de jouer, de me trouver aussi à l'arrière-scène, de développer aussi des projets pour ados, que quand moi je faisais des émissions pour ados, mais là j'ai 46 ans, j'en ferai plus demain matin, d'aller rencontrer Hélène Béliveau, puis sa mère, puis de dire hey, on ferait une série sur Jean Béliveau pour Historia, fait que puis qui me disent ben est-ce que c'est toi qui vas jouer Jean Béliveau, puis je dis non, j'ai 46 ans, je veux pas jouer Jean Béliveau, ouais, il va être dans vingtaine dans la série, fait que moi, si ça s'arrêtait là, je trouverais mon plaisir ailleurs. Mm-hmm. Mais la télévision, par exemple, j'étais un télévore, là. Moi, je pense que j'ai comme... Je vais avoir 7 télés dans la maison chez nous. Tu sais, je les changerais juste pour les changer. J'ai même l'objet, là. Tu sais, je suis ridicule, là. Donc, je magasine des caméras 360, puis je fais venir deux Oculus au bureau, là, parce que moi, je veux faire de la réalité augmentée, puis je me demande comment on fait pour raconter des histoires, à part que le téléspectateur soit assis au milieu de la scène, puis que 12 hommes en colère se passent autour de lui, je suis là-dedans. Fait que moi, j'aime ça profondément, là. J'ai autant de fun, moi, à faire les réunions de prod, puis le contenu avant que d'aller le faire. Puis après ça, quand tu fais ça aussi, tu possèdes tes affaires, c'est bien plus facile après d'aller le faire, tu sais, qu'à juste prendre, tu l'as emprunté sur le dos pis des cartons dans tes
mains. Mais cette absence de regard sur toi.
Ben, ça me ferait bizarre. C'est sûr que ça me ferait bizarre. Pablo, on te dirait le contraire. On dirait, non, tu serais pas capable. Mais pourquoi?
Qu'est-ce que c'est de plus sur toi que toi-même?
Non, mais c'est quelque chose à laquelle t'es habitué, tu sais. Il y a quelque chose de... C'est rassurant. Il y a quelque chose de rassurant de rentrer dans un dépanneur à cette île, puis que la personne te regarde décroché, puis elle dit « Hey, bonjour Charles ». Tu sais, il y a quelque chose de rassurant. Il y a quelque chose de très.
Il y a tout un travail de liaison que t'as pas besoin de faire, qui est donné.
Être chez vous partout, tu sais.
Ouais.
Tu te sens chez vous là. Tu te sens. Tu sais, faire son nid. Mais là, quand ton nid il est grand, quand t'as ce. Tu sais, puis. Ça. Moi, en plus, je suis dans le divertissement, tu sais, je suis dans écrire, de produire, jouer, dans les jeux, donc je suis pas quelqu'un qui va me dire, achète la fortune, ah, si, j'ai 2 mois à vous dire.
T'es dans le bonheur.
Je suis dans le bonheur, tu sais, il y a quelque chose de je suis plutôt pas polémiste, un peu, mais pas tant que ça, En plus, j'ai un enfant différent, fait que ça jette un regard sur moi aussi qui est différent. Tu sais, on n'en parlait pas au début, mais à un moment donné, tu fais, ben là, c'est ce que je suis, tu sais. Puis il y a plein de monde qui t'écrivent, puis peut-être...
Est-ce que ça facilite les choses, justement, le fait que tu sois connu, que la relation avec ton enfant soit plus facile quand tu arrives quelque part?
C'est plus facile parce que les gens, ils savent.
Oui.
Moi, des fois, je vois des gens, tu sais, ils ont un enfant qui... Là, je vais parler d'autisme parce que c'est ce que je connais.
Oui.
Mais leur enfant est Asperger, puis il y a une tourette légère, puis il fait une crise ou il dit des affaires, tu sais. Puis t'as toujours quelqu'un qui est là puis qui va dire « Hey, moi, c'était mon enfant, je te dis que ça se passerait pas demain », mais qui a aucune conscience que non, c'est un problème. Alors moi non, là, les gens ils vont me voir, ils savent, tu sais, fait qu'il y a déjà ça. Je suis encore dans le village, là, je suis là-dedans, tu sais. Des fois les gens vont me rencontrer après. Tu sais, j'ai eu ça, on a fait récemment des portes ouvertes pour le lancement de La Voix. Puis j'ai des gens qui viennent me voir, puis ils disent « Ah oui, je vous ai vu au magasin. Vous étiez avec votre fils, je vous ai pas dérangé. » T'sais, fait que même lui, ça fait comme un espèce de bouclier aussi. Les gens, ils vont pas oser. Parce qu'ils voient que je suis en train de le checker pour pas qu'ils partent à courir. Là, ils mesurent quand même 6 pieds 2, puis 200 quelques livres. Mm-hmm. Fait que c'est une grande affaire. Puis, donc, ils vont respecter ça aussi. Mais oui, ils ont ce regard-là. Puis ça facilite les choses. Puis même, je le vis en production, là. Tu sais, des fois, je suis en meeting, puis un moment donné, Nicolas, il me regarde, puis il dit, OK, là, c'est toi qui téléphone. Mm-hmm. Parce que ça va rappeler.
Ben oui.
Ça va retéléphoner.
Ben oui.
Puis je dis pas pourquoi j'appelle.
Oui.
Fait que là, j'aimerais parler à telle personne. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Ça facilite les, ça facilite les choses.
Tu travailles dans une émission qui crée de la vedette, relativement instantanée. Ça, c'est un phénomène, relativement neuf. Au Québec, la vedette, le vedettariat instantané, en fait, c'est relativement récent en Occident. Il y a des gens qui veulent là-dedans vraiment, vraiment être connus, être reconnus, devenir des vedettes, devenir des célébrités. Quand tu regardes ça, quel regard tu jettes là-dessus?
Mais, on en parle de ça. Hein? Dans le processus de la voix, on en parle de ça. Moi, je leur parle de ça. Parce que
tu les mets en garde ou quoi?
Je ne les mets pas en garde. En fait, ce que je leur dis, c'est que le vedettariat, c'est pas une fin, c'est une conséquence. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être. Les grands artistes que vous aimez, là, c'est une conséquence de devenir une vedette. C'est le plaisir de chanter puis de bien le faire puis de pas être capable de le faire pareil. Ils feraient autour d'un feu de camp puis ils le font à la télé puis c'est le même plaisir puis la même chienne pour avoir le même trac, la même remise en question, le même doute, le même besoin de faire une nouvelle affaire qui va pogner, qui va toucher les gens, qui va, tu sais, puis donc on leur dit ça, puis tu sais, moi je leur dis tout le temps pour les calmer un peu, tu sais, ici on pourrait faire ça de la voix là, quatre chaises là qui tournent avec un buzzer de bureau à gros, puis tu sais, le reste c'est du crémage, les éclairages puis tout, tu sais, mais ultimement je pourrais vous cadrer, puis tu sais, sur YouTube il y a plein de monde, ils se passent, ils chantent dans leur chambre, on s'envoie ça, puis on dit, hey, c'était écœurant, ça, tu sais, on est rendu là aussi dans notre perception là. Puis c'est quoi le moteur, qu'est-ce que vous aimez faire, c'est pour ça que vous le faites. Puis généralement la voix, oui, tu sais, c'est rarement du monde là qui sort d'un sous-sol.
Oui, oui, oui.
Tu sais, ils ont chanté souvent en Asie, dans des bars, dans des bands, puis tu sais, Rémi Chassé, il a chanté pour Taylor Made Fable, il s'est ramassé à Los Angeles, il s'est ramassé à Nashville, un agent, ça a foiré, ils se sont fait voler, puis c'est, tu sais, ça a été compliqué, mais c'est généralement du monde qui poursuivent un rêve, puis ils ont du millage en arrière d'eux autres, puis ils ont comme pas rencontré le bon monde, la bonne chanson, le bon timing, puis de se retrouver à la voix, ils savent ce qu'ils sont, puis des fois là on va leur dire là que le technicien là, tu souviens-toi d'une chose là, le caméraman, s'il veut te mettre flou, il va te mettre flou là. Apprends le nom du monde ici, parce que Christian Bernache, là, que sa Steadicam, là, le monsieur qui est là, soit poli, parce que lui, il a fait des gros plans Céline Dion à la tournée mondiale. C'est à peu près le meilleur Steadicam au Québec. Il n'y en a pas un de meilleur que lui, là. Il a mal dans le dos, puis on a toute peur quand son dos va lâcher, lui. Fait que la star l'achète, c'est lui ici, là. Toi, tu vas être éliminé peut-être cette semaine. Fait que il faut avoir aussi cette conscience-là, tu sais, de que ça passe.
Ouais.
Puis que si on veut garder ça vivant, ben il faut être authentique, puis pas être dans le paraître, pas être dans la beauté, parce que ça se flétrit, tu sais, ça, tu sais, je pense à David Bowie là qui nous a quittés là, tu sais, c'est toujours quand même réinventé, il a pris des risques, tu sais, sa sortie est incroyable là. C'est
tellement
incroyable. Ouais. Finir avec la musique, puis le vidéoclip, qui est comme, tu sais, quel artiste, tu sais. En même temps, David Bowie, en 1997, il a vendu ses droits et ses droits à venir pour 55 millions, parce qu'il voyait venir Napster, tu sais. Fait que oui, en même temps, c'est pas juste comme un artiste. Tu sais, t'écoutes, tu regardes ça, c'est quel homme brillant, quel artiste, quel homme d'affaires, quel acteur, mais le moteur en arrière de ça, c'est la création, puis c'est le fait de vouloir se dépasser, tu sais, je pense.
Oui, oui. Être grandé, en tout cas, c'est vraiment fort important. Juste un mot sur les réseaux sociaux, tu les évoquais au début de la rencontre, Charles. Est-ce que la célébrité a changé à l'ère des réseaux sociaux?
Oui, parce que maintenant, il y a des vedettes de réseaux sociaux.
Oui.
Il y a des gens qui écrivent là, puis qui ont même des gens qui ont des followings réseaux sociaux.
Qui ne sont qu'eux-mêmes.
Qui ne sont qu'eux-mêmes.
Qui ne font qu'apparaître.
Oui, et qui sont là.
Et qui sont célèbres.
Oui, et que les gens les suivent, puis que les gens...
Comprends-tu ça? Comment t'interprètes ça?
Ah, ben, parce que, pour la même raison que la télévision, la même raison que c'est un médium. Tu sais, moi, j'ai vu une fille à On n'est pas couché, c'était une fille qui était une vedette des réseaux sociaux, qui a sorti un magazine humoristique,
oui, oui,
etc. Et les gens qui étaient là étaient des dinosaures total. Parce qu'ils lui demandaient, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Parce qu'elle faisait quoi? Quoi après? Mais là, tu sais. Fait que eux autres, ils trouvaient ça cute, les réseaux sociaux. Oui. Mais ils étaient tellement off. À un moment donné, elle m'a fait l'entrevue, ils font, ouais, on est un peu, mais ils étaient complètement dépassés. Là, tu dis, OK, ces gens-là, sont pas là pendant tout. Eux autres, ils vont en train de s'éteindre, tu sais. La publicité est rendue à 50% sur Internet, là. Puis, qu'est-ce qu'elle va faire, la fille? Elle va juste avoir plus d'argent que toi, puis qu'à un moment donné, les diffuseurs, ça va être quelqu'un avec un serveur chez eux, puis qui va diffuser, qui va se faire un magazine, qui va diffuser. Ça existe, ça. Fait que les réseaux, ce qui est dangereux, les réseaux sociaux, c'est que des fois, ben, pas qu'il est dangereux, mais des fois, t'en vois qu'ils ont des opinions sur tout, puis ils deviennent une espèce de gourou, puis il y a du monde qui les suivent un peu, puis là, tu commences à te mal aller, puis OK, puis c'est comme, souvent, tout est de la merde. Puis parce qu'ils ont du monde autour, puis parce qu'ils sont seuls chez eux, puis ils n'ont pas de rapport avec ces gens-là, tu sais, ils se croient. Fait que ça, il y a quelque chose de dangereux. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, on a eu l'idée dans les médias que de dire bon, mais on va prendre une vedette YouTube, puis on va prendre le YouTube, puis on va l'amener à la télé, tu sais. Puis c'était le réflexe, tu sais. Puis au début, la convergence, c'était ça. On va prendre une émission de télé, là, puis on va en faire une revue avec le même titre, des capsules avec le même titre. Puis on s'est aperçu que c'était pas ça, les contenus, il fallait qu'ils... Fait que oui, mais je pense que les gens qui sont sur YouTube, les gens, ils les aiment parce qu'ils sont sur YouTube. Peut-être qu'ils aiment à la télé, puis ils les aiment plus, parce qu'ils sont... C'est comme, c'est corporate, c'est de la télé, c'est léché, c'est tout. Ils aiment le côté crush, le côté spontané. Puis il y a un rapport de proximité aussi qui est intéressant, tu sais. Tu sais, à recevoir... t'es sûrement comme moi, mais... Moi, quand je suis sur les médias sociaux, quand peut-être parce que je suis dans les médias, là, mais quand une émission de télévision m'envoie des affaires, ça m'intéresse plus ou moins, tu sais. C'est comme un publisac là, pour moi. Là.
Oui.
Quand quelqu'un me parle, quand je sens la personne, quand elle me dit quelque chose de sérieux, quand elle me partage quelque chose, quand elle me fait une joke, quand elle devient mon amie, j'ai l'impression d'avoir une proximité. Puis les gens, ils touchent ces gens-là. Puis même, moi, je pense que les réseaux sociaux, ça a influencé ce rapport de proximité-là. Ça a eu une influence. On la voit même dans la culture américaine. Avant, une vedette de cinéma, ça voulait faire de la pub et du cash, elle allait faire des pubs au Japon.
C'est
elle partait,
elle
s'en allait au Japon. Maintenant, George Clooney, il annonce Nespresso avec Danny DeVito, puis ça se passe en Amérique du Nord. Katy Perry, elle annonce du maquillage, puis ça se passe en Amérique du Nord. Puis il y a pas de problème avec ça. Il y a plus de... Parce qu'il y a ce rapport de proximité-là qui est là, puis qui est rapide. Avec tout ce qui est bon, puis tout ce qui est pas bon, toutes les gaffes avec Justin Bieber qui décide d'aller gravir une pyramide puis il se fait pogner, tu sais, alors que combien de d'ados de 20 ans ont dû sûrement faire ça au Mexique puis aller monter puis ils s'en fait pogner mais ils ont pas passé dans tous les journaux de la terre. Mais donc ça change mais moi je pense qu'il y a plus de bon que de mauvais, tu sais. C'est la démocratisation des fois de l'imbécilité, mais il y a aussi des belles choses aussi qui se passent là.
En terminant, Charles, est-ce que comme des gens pas connus, il t'arrive de voir quelqu'un de très célèbre, de rencontrer quelqu'un de très célèbre, puis de pas oser y aller?
Ah oui, oui, ben oui.
Ah oui.
Ah oh, oui, c'est. Moi, je vais toujours. Je suis un gars de 46 ans, puis mon père joue au golf, puis moi j'ai joué au golf, mon grand-père m'a montré à jouer au golf, puis je sais pas pourquoi j'allais chez mon grand-père au temps du golf, puis il écoutait Jack Nicklaus, tu rentrais dans la maison dimanche après-midi, il disait « Chut, 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 va t'asseoir », puis il écoutait le golf, tu sais, qui fait de bien plate, mais moi je sais pas, il y a comme une référence familiale le fun, puis je suis en Floride, puis je suis cette boutique, ça s'appelle Bed Bath & Beyond, où tu trouves toutes sortes de patentes, puis là je tourne le coin, puis il y a Greg Norman qui est là.
Grand joueur de golf.
Et vêtements, là, tu sais, c'est comme le requin, il y a des vêtements de golf et du vin. Alors, il y a du Greg Norman, du vin australien, comme il y a du Coppola, mais bon, lui, s'est lancé là-dedans aussi. Fait que je tombe dans le coin, puis là, je dis ça à maman, je dis « Greg Norman ». Puis là, elle dit « Greg Norman ». Je dis, oui. Elle dit, le gars du vin, là. Oui, c'est ça. C'est le gars du vin. Tu sais, puis elle dit, comment t'as fait de le reconnaître, le gars du vin? Non, je dis, parce que c'est pas un gars du vin, mais là, je suis jamais allé le voir. Quand j'étais en deuxième année au conservatoire, on allait voir des shows à New York. Puis on était allé au Michael's Pub où Woody Allen joue avec un band de Dixieland. Oui. Puis des fois il est là, des fois il est pas là. Mm-hmm. Puis quand on est allé, il était là. Puis j'étais avec Paul Amarani à l'époque, puis on il était dans ma classe, puis là on est assis là, puis on se dit il est là. Puis on a entendu le set finish. Puis il est allé s'asseoir. Puis moi je suis parti. Puis je suis allé jusqu'à sa table, tu sais. Mais je me suis jamais rendu parce qu'il y a comme trois bodyguards qui sont levés à trois tables à côté. Mais il a quand même jeté son regard hypochondriaque sur moi. T'sais, il a dû me voir comme un gars avec plein de germes. Mais mais j'ai eu comme un eye contact avec Woody Allen.
Wow. T'sais.
Fait que j'étais très...
Ouais, c'est l'équivalent d'une autographe.
Très fan. Mais en même temps, il y a quelque chose que je trouve maintenant la célébrité des autres, la célébrité, on parlait des gens qui ont un succès international, que ce soit Xavier Dolan, que ce soit, on dirait que ça nous a aussi permis de dire, ben, pourquoi pas nous, tu sais, pourquoi, ben, on est aussi bon que n'importe qui, tu sais, on n'est pas comme, c'est pas André-Philippe Gagnon qui va à Johnny Carson puis qu'on capotait toute la gang parce qu'il a dit de s'asseoir. Puis là, dans les journaux, il y avait comme 4 pages sur le fait que Johnny Carson ne fait jamais ça. Puis là, le fait qu'il s'est assis à côté puis alors que c'était spontané, il est s'asseoir, puis bon. Mm-hmm. Mais moi, je sens maintenant qu'on n'a plus ce complexe-là. Quand, au printemps, tu sais, dans le même show, on avait Jean Leloup, Kelly Clarkson, Def Leppard, puis tu sais, la meilleure affaire du show, probablement, c'était Jean Leloup, tu sais, d'avoir de Sheryl Crow qui est là, puis elle est en haut au buffet, puis elle attend en ligne avec son cabaret comme tout le monde, tu sais, puis elle est avec ses musiciens, puis elle tripe sa musique, puis c'est pas... cette espèce de complexe-là, ce complexe d'infériorité, là, on dirait que moi je l'ai plus, ça m'énerve plus. Mm-hmm. Tu sais, de rencontrer CeeLo Green, puis d'avoir dans le show, après ça, m'enverrer de bord, après ça, faire Def Leppard, puis d'être avec Kelly Clarkson. Mais je ris tout le temps parce que j'étais en auto, puis j'avais dit, tiens, oui, puis je vais dire quelque chose en français, puis ce que tu me répondras exactement, Charles. Puis, exactement, Charles? Oui, oui, exactement, Charles. Elle l'a dit 15 fois, puis dans la vidéo pour ses fans... Elle avait mis son passage à Montréal, puis ça commençait avec exactement, puis ça finissait avec exactement Charles. Fait qu'à chaque fois, j'étais en auto, puis Kelly Clarkson, là, tu sais, je passerais des hits, là, sur « Ah oui, je connais ça, ça, je connais ça, ça, je connais ça, ça, je connais ça. » Puis à chaque fois, j'étais en auto, puis je disais « Ah oui, je regarde la blonde, je dis « Ah oui, elle, c'est, je connais, elle, que... » Je suis pas un degré de séparation, là. Peut-être qu'elle me replacerait dans le disant « Exactement Charles, Montréal, puis elle me replacerait. » Mais je pense que on a plus le... ce sentiment-là de « Ah, il a daigné venir nous voir. Ah, il est venu chez nous. » Tu sais, bonheur, quand mm-hmm. est-ce que tu vas venir chez nous? M'emmener, je sais pas. Le bonheur, il est plus facile. Puis on a le droit au bonheur. Mm-hmm. Fait qu'il vient nous voir. Puis en plus, il vend des disques. Il aime bien ça venir ici.
Charles Lafortune, merci beaucoup.
Merci, Alphonse.